Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Internet des objets industriels avec Laetitia Conem. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Pour discuter avec elle, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et Arnaud Soulier.
Bonjour.
Alors Laetitia, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui. Du coup, Laetitia, je suis architecte spécialisée dans les systèmes industriels et je suis à la division instance technique de l'ANSSI.
Alors Laetitia, quand on parle de l'Internet des objets industriels, on parle de quoi ?
On parle globalement de tous ces nouveaux objets qui sont arrivés dans les usines ces dernières années, dans le but de les moderniser, et notamment de tout un ensemble de capteurs qui viennent, qui sont hyper connectés, qui utilisent des protocoles plutôt nouvelle génération, et qui vont être posés sur des machines afin de récupérer des signaux, des températures, des pressions, qui ne pouvaient pas être acquises par d'autres moyens ou par les moyens historiques au sein de l'usine, et donc générer énormément de données au sein de l'usine pour soit produire plus efficacement, soit mieux connaître l'usine et anticiper des éventuels problèmes qu'on pourrait avoir dedans.
Alors, quels sont les risques cyber associés à ces objets ?
Alors, ces objets en eux-mêmes, tout seuls, ils portent des risques, mais pas tant que ça. C'est plutôt les risques qui sont associés à ce qu'on fait de la donnée de ces objets. Donc il y a toute une question d'à quel point la donnée que ces objets vont produire est fiable. Est-ce que quand mon capteur de température me donne 20 degrés, bah, c'est effectivement 20 degrés et pas 25 ? Donc ça c'est une première chose, mais au-delà de la fiabilité de ces objets sur la donnée qu'ils remontent, il y a la question de comment j'utilise cette donnée, qu'est-ce que j'en fais, et est-ce que j'ai une confiance suffisante pour pouvoir réintégrer la donnée dans un système industriel. Aujourd'hui, la plupart de ces systèmes ne sont pas directement réintégrés dans le système Indus, c'est-à-dire qu'on n'a pas une donnée de capteur de type IIoT qui remonte et qui est directement intégrée, par exemple, dans une boucle de rétroaction pour piloter un boiler ou un autre équipement chauffant. Ce qu'on voit en général aujourd'hui, c'est de la donnée qui va remonter et qui va être utilisée dans des modèles statistiques afin de prévoir l'évolution et la manière dont se comporte l'usine. Donc en compromettant un très grand nombre de ces capteurs ou les flux de données associés ou l'endroit où sont stockées les données, on va pouvoir altérer la sortie de ces algorithmes statistiques et donc faire se comporter l'usine autrement ou alors voir complètement forcer des comportements au sein de l'usine qui ne devraient pas avoir lieu.
Est-ce qu'on a des exemples d'attaques ? Enfin, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de ce document ? Est-ce que c'était suite à un incident particulier ? Je sais que les Américains avaient fait des démos d'attaques industrielles assez visuelles.
À ma connaissance, on n'a pas d'attaques spécifiquement sur les IoT, en contexte industriel. On en a sur les IoT dans le contexte, disons, plus civil. Ce qui a vraiment motivé le papier, c'est qu'on est venu nous demander si on avait quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet. Et donc, un peu naïvement, on est allé creuser et on est allé secouer les systèmes pour regarder ce qui sortait, ce qui était fait chez nos bénéficiaires. Et on a aussi commencé à regarder et théoriser sur les éventuelles attaques qu'on pourrait faire. On s'est rendu compte aussi qu'en fait, il y avait aujourd'hui énormément de systèmes similaires aux IIoT qui étaient déjà utilisés dans certaines industries, parce que c'est des vieilles industries, et donc elles utilisaient déjà en fait ces systèmes-là, c'est juste qu'elles les appelaient pas IIoT. Et donc on avait en fait tout un tas de risques qui étaient déjà pré-documentés, et c'est juste que personne n'avait pris le temps de mettre IIoT dessus, parce que c'était tellement intégré au système qu'en fait on ne l'avait pas labellé de cette manière-là.
Tu parles de théoriser, justement le document présente le modèle de Purdue. Est-ce que pour les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, tu peux expliquer ce que c'est ? Je ne suis pas sûr que ça se voit encore dans les écoles.
Alors le modèle de Purdue, c'est une représentation de l'usine, qui est une vieille représentation, que pas mal de gens prennent et interprètent comme une architecture sécurisée, mais qui est beaucoup plus là à la base pour représenter la manière dont fonctionnent les équipements au sein d'une usine et donc qui découpe l'usine dans des couches, un peu comme le modèle OSI, en ayant les couches basses qui sont, ce que j'aime dire, les moins intelligentes, et les couches hautes, les plus intelligentes et les plus connectées. Et donc on a des couches basses, par exemple, avec tout en bas des capteurs des actionneurs, qui sont des équipements qui n'ont pas spécialement d'intelligence, qui reçoivent des signaux et qui en envoient, et qui font des mesures, ou qui prennent des courants et qui les transforment en actions sur le monde réel. Au-dessus de ça, on va avoir les automates, qui commencent à avoir de l'intelligence et une très grande fiabilité, mais qui ont quand même une intelligence assez limitée, des algorithmes qui sont, on peut dire, simplistes au vu de ce qu'on peut connaître en informatique classique. Au-dessus de ça, on a tous les équipements informatiques qui vont venir supporter directement les automates. Donc on a tout ce qui est les IHM, les serveurs SCADA, ce genre d'équipement. Et après, on a une dernière couche qui représente tous les serveurs qui vont venir en soutien et qui sont nécessaires dans l'infrastructure au fonctionnement de l'usine. Donc ça, c'est disons, la couche basse. Derrière, on a tout ce qui est DMZ, donc pour faire l'interconnexion entre le monde OT que je viens de décrire et le monde IT. Et au-dessus, enfin, on a le monde IT avec tout ce qu'on peut connaître d'informatique de gestion classique. Donc ça, c'est le modèle du Purdue. C'est pas un modèle Q, c'est plus un modèle qui tend à ventiler les équipements en fonction de leur proximité avec le terrain.
Je trouve que l'analogie avec le modèle OSI, elle est intéressante parce que de la même manière, quand on regarde la réalité de ce qui est fait sur le terrain, c'est pas en phase. C'est comme le modèle OSI avec ses 7 couches. Et quand on regarde finalement les applications modernes, comment ça fonctionne, bah c'est pas tout à fait aligné. Le modèle de Purdue, c'est tout à fait pareil. Je donne quelques exemples. Moi, j'entends parfois des gens qui disent « Oui, on a fait une segmentation selon le modèle de Purdue. » C'est-à-dire que, soi-disant, on fait un cloisonnement avec un firewall entre chaque couche. Personne ne fait aucun cloisonnement entre les couches 0 et 1. Ni 1 et 2, il y a une couche DMZ qui est 3.5, donc qui n'existe pas dans le modèle, donc ça me fait toujours un peu rire effectivement le modèle de Purdue, donc il faut en parler, c'est important, c'est un langage commun, mais il a été très fortement, je trouve, un peu dévoyé dans son utilisation actuelle.
Oui, tout à fait, puis ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces gens qui prennent en fait le modèle de Purdue comme un modèle de sécurité, qui vont vouloir mettre des firewalls notamment entre une couche 1 et 2, en fait c'est peut-être même pas vraiment une bonne idée de le faire. Et donc, il y a vraiment ça. Et similairement au modèle OSI, en fait, quand le modèle OSI progresse et avec le temps, on se rend compte que certains protocoles vont venir, écraser et fusionner les couches entre elles. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui au niveau du modèle du Purdue avec la même chose. Et c'est notamment le cas donc des IIoT, mais aussi de pas mal d'équipements qui viennent avec l'industrie 4.0, où on se retrouve avec des équipements qui sont à la fois automates, capteurs actionneurs, qui parfois même proposent directement dessus leur IHM, et en fait tout est fusionné dans un seul équipement. Et quelque chose d'important aussi dans le modèle de Purdue, c'est que normalement je peux pas arriver à la couche 2 si je suis pas passé depuis la couche 1. C'est-à-dire que normalement je fais des sauts de puce en fait, avec l'information, et ça c'est quelque chose que l'IoT ne fait pas. Donc l'IoT vient capter, elle est au niveau 0, vient capter une température, voilà, une mesure, et au lieu de l'envoyer très poliment à un automate au-dessus, en fait, elle va directement l'envoyer ailleurs dans un système très numérique et potentiellement directement dans de l'IT. Et c'est souvent ce qu'on voit, puisque aujourd'hui, les capteurs sont parlant Zigbee. Ils vont envoyer ça dans des espèces de concentrateurs qui sont des serveurs de base de données dédiés à ça, qu'on a poliment placés en zone IT parce qu'on dit ouh là là, attention, ça c'est dangereux, je connais pas bien, c'est pas de l'usine. Et donc là, on vient de faire une flèche de manière directe entre le niveau 0 et l'IT, en oubliant et en omettant le fait que, dans le modèle de Purdue historiquement, on était censé faire des sauts de puce. Et ça, ça apporte, en vérité, pas tant de risques que ça, parce que l'IoT, en fait, si c'est juste sortir de la donnée, il y a peu de risques, la vérité là-dessus. Mais c'est assez intéressant parce qu'on sent bien qu'on vient bousculer la vision qu'on a du système Indus quand on vient apporter un IoT dedans. Et juste ça, ça suffit à parfois perdre pas mal de gens qui ne savent pas quoi faire parce que ils avaient un joli modèle dans les mains. Ça fait des années qu'on le maîtrisait bien. On était contents. On était enfin stable sur nos appuis. Ça a pris quelques années quand même. Et là, d'un coup, on apporte cette jolie technologie qu'on veut très très fort mettre dans nos usines. Et en fait, elle vient complètement casser le modèle qu'on avait dans les mains et on est de nouveau perdu. Et donc, en fait, l'une des motivations aussi de l'écriture de ce papier, c'était ça. C'était de réexpliquer comment on peut ne pas être perdu, tout en intégrant quand même des systèmes qui sont intelligents et en intégrant des technologies qui sont nouvelles.
quand tu parles du monde de l'entreprise, enfin de serveurs qui vont être du coup côté IT, non pas côté industriel, je pense que ça peut valoir le coup de détailler un peu. J'ai aussi l'impression qu'il y a quand même pas mal d'usages où toute cette chaîne de remontée d'informations, elle passe pas du tout par l'IT. Et elle peut être à 100% fournie par un tiers qui va fournir, je donne un exemple, hein, des capteurs, allez, disons, d'humidité dans le sol, par exemple, pour de l'agriculture ou autre, qui vont communiquer avec des protocoles longue distance de type LoRaWAN sur un réseau LoRaWAN qui est opéré publiquement par un opérateur de réseau. Et ensuite, ça va arriver dans le cloud de l'opérateur qui va redescendre ces informations sur les systèmes. Donc finalement, on n'a pas forcément cette adhérence à l'IT. Et j'ai presque tendance à penser que dans certains cas, c'est mieux de bypasser totalement la partie oui. IT et
oui,
de
ça c'est partir... le cas rare, c'est de plus en plus souvent carrément par internet hein.
Ouais, tout à fait, et donc finalement, mais moi je trouve que c'est presque plus sain d'avoir une connexion bien maîtrisée sur un tiers oui, que de repasser par l'IT et de créer une dépendance à son IT qui pourrait rebondir sur le site industriel.
Oui, mais là t'es plus 4.0, c'est tout par internet, tout dans le cloud et hop, vas-y, fais confiance.
Alors oui, et pour rebondir sur ce que disait Arnaud, effectivement, on a des systèmes qui envoient directement et des vendeurs qui vendent leur système à IoT en disant « bah moi j'ai mon cloud, utilisez mon super cloud, mettez votre point de concentration à côté de votre usine parce que ça on en a forcément besoin juste parce que physiquement il faut être à portée des capteurs ». Mais une fois que c'est arrivé sur ce point de concentration, je vous embarque une puce 3G, 4G, 5G ou filez-moi un accès internet et derrière j'ai un super VPN qui monte au travers de tous les réseaux que vous voulez et qui arrive dans mon cloud. Il y a sur l'aspect de l'industrie 4.0, je pense que sur l'aspect de l'industrie 4.0, se poser la question de savoir si ça en est ou ça en est pas, ça devient un chouille plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on a du mal à définir l'industrie 4.0 d'un point de vue purement technologique. Aujourd'hui, l'industrie 4.0, on en a une très belle, c'est l'exemple des Allemands, et ça correspond, à mon sens, beaucoup plus à une initiative politique et industrielle de modernisation des usines. Ça n'a pas initialement une portée technique dans les usines en disant je vais créer la technologie de l'industrie 4.0. C'était plus on veut passer à l'ère moderne avec nos usines, on veut être une grande puissance industrielle et donc on a injecté énormément d'argent pour faciliter ça. Et donc de fait, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est un peu la modernisation toutes azimuts finalement du milieu industriel. Avec certains secteurs qui s'y prêtent pas trop bien, parce qu'en fait, ils étaient déjà très matures. Je pense à des gros secteurs critiques, des systèmes qui étaient déjà bourrés de capteurs et des choses comme ça. Là où on voit vraiment de l'industrie 4.0 et où on peut la pointer du doigt quand on voit les technos arriver, c'est notamment dans toute l'industrie manufacturière, parce que justement, on a une capacité à avoir énormément de valeur ajoutée lorsqu'on vient rajouter des capteurs sur des machines qui, historiquement, n'en avaient pas. Et donc, avoir des données à des endroits où on ne pouvait pas en avoir. Pour donner un exemple, pour que ce soit plus clair, vous avez une machine assez usuelle en manufacture, qui est une bobineuse. C'est une machine qui fait des bobines. Alors, vous faites des bobines de ce que vous voulez. Ça a une particularité, c'est que c'est une machine tournante. Et donc, que vous enrouliez du fil ou du cuivre, en fait, elle va tourner, elle va enrouler le fil de cuivre ou de coton autour de la bobine. Et en fait, toutes ces machines qui tournent, elles ont une particularité, c'est qu'elles cassent extrêmement souvent. Et c'est hyper embêtant parce que cette machine coûte très cher. Et aujourd'hui, la IoT vient répondre à ce besoin de la machine ne doit pas me casser dans les mains au milieu d'une production d'une pièce très importante, parce qu'on se rend compte qu'en positionnant correctement un capteur, en chopant la bonne température, la bonne vibration, au bon endroit sur la machine, et sans changer la machine justement, on est capable de distinguer que « Ah, elle vient de passer un câble de degré » ou « Ah, elle vient de passer un câble de vibration ». Et donc, on va savoir qu'en fait, la machine va peut-être bientôt casser. Et donc, on va être capable de faire une maintenance préventive sur cette machine dans le but d'éviter qu'elle nous casse dans les mains pendant un cycle de production. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment de l'industrie 4.0 pure et dure. Mais des exemples comme ça, on n'en a pas non plus des masses. Souvent, l'industrie 4.0, ça se traduit par le fait que j'amène une techno moderne plutôt utilisé sur Internet, donc du cloud, de la virtualisation, du capteur connecté, dans une usine qui, elle, historiquement, est une vieille dame, et donc qui parle pas du tout sur ces technos-là, et qui a pas l'habitude de les avoir dans son environnement.
On peut parler un peu des passerelles qui permettent d'interconnecter intelligemment ces réseaux de nature très différente.
Parce que pour moi, sécurité industrielle, c'est diode. Peut-être que je me trompe, mais...
La diode, en fonction de la manière dont vous la mettez, elle va venir protéger soit en intégrité, soit en confidentialité. Pour ça, on a de très jolis modèles mathématiques, qui sont les modèles de Bell-Lapadula et de Biba, si je ne fais pas d'erreur, et donc qui vous disent que si je veux protéger un système en intégrité, alors je ne dois avoir que de la donnée sortante, et si je veux protéger un système en confidentialité, alors je ne veux que de la donnée montante. Et que si je veux sortir de la donnée, enfin faire un sens dans l'autre sens, bah, potentiellement il faut que je mette en place tout un tas de fonctions de sécurité qui vont venir nous assurer que c'est pas le cas. Le point positif du modèle de la biode, c'est que c'est un modèle un peu historique, sur lequel on est très sûr, on est très confiant, on est vraiment sur nos appuis quand on est sur une diode montée dans le bon sens, donc souvent plutôt sortante du système indus et pas rentrante, puisqu'on veut protéger le système indus en intégrité. On est plutôt stable sur nos appuis et on a une bonne capacité, entre guillemets, à cracher de la donnée à l'extérieur du système indus. Et donc, dans le cas de l'IoT, c'est pratique parce qu'on peut se dire, bon, bah, je produis ma donnée industrielle au sein du système industriel et ensuite je la sors. Et pour ça, j'utiliserai ma diode. Alors, la vérité vraie, c'est que même si ça marche très bien sur le papier, dans la pratique, une diode à mettre en œuvre, ça peut être extrêmement coûteux, ça peut être extrêmement complexe. Ça doit être opéré par des gens dans les usines qui sont pas forcément déjà très bons en informatique de base parce que c'est des automaticiens. Et donc, a fortiori, opérer des diodes, c'est quelque chose qui serait très compliqué pour eux. Et par ailleurs, c'est un équipement qui est très coûteux, et c'est dommage de sortir une solution aussi robuste quand le risque il est minime sur un système qui n'est pas forcément critique, et notamment dans les systèmes manufacturiers où, pris unitairement, finalement, le risque il n'est pas si grand que ça, surtout sur de la sortie de données.
Je rebondis sur le sujet de la diode, parce que je me suis intéressé au sujet il y a quelques années. Je pense que, premièrement, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais des audits en milieu industriel, j'en ai jamais vu. Donc c'est pas une solution qui est très présente, elle l'est peut-être dans certaines industries qui sont proches des secteurs de la défense, sans doute, mais pas dans ce que moi j'ai pu, oui, j'ai pu rencontrer.
Avec mon grand âge, écoute, j'ai quand même vu une vraie diode avec une fibre optique qui émet et pas de retour, on va dire dans un gros objet, dans un système embarqué de transport de taille conséquente.
J'ai donc, pas dit qu'il n'y en avait pas, je dis que j'en ai jamais vu sur un site industriel. Après,
voilà, c'est comme si dans un système embarqué, on va dire que c'est pas un vrai site industriel. Hein, enfin, ceci dit, quand on parle d'un sous-marin, on est dans une ville avec une usine de production nucléaire, avec tellement de trucs qu'on ne sait plus si c'est un système embarqué ou un système à part entière. Mais bon, donc il y a quand même eu des moments où ça existait en vrai à une époque. Alors moi, ça fait très longtemps que je suis plus dans le business. Alors, vous savez que tout ce que j'ai vu, c'est ancien.
Mais c'est un concept, qui est pas nouveau. Hein, mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais vu. Je pense que le problème principal, c'est plus le prix aujourd'hui que la complexité. J'ai vu des solutions qui sont assez faciles à déployer avec des passerelles de transition protocolaire qui prennent n'importe quel protocole industriel et le font passer sur un UDP unidirectionnel au travers d'une diode physique et pareil de l'autre côté. Donc franchement, c'est 2-3 clics et c'est pas hors de prix. Ce qui est souvent cher, c'est le device physique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conçus pour des usages militaires, donc ils sont certifiés EL7+. Alors,
bon, oui, parce que des gens, ils en ont
rien à faire. Libre, quoi. Hein. Oui, bah, je l'ai fait en 2016, c'était présenté à STIC. Et globalement, le deuxième point, c'est que notamment on parle de manufacturing, dans ces environnements-là, il y a déjà des connexions unidirectionnelles. On a besoin d'éléments qui proviennent de l'ERP pour l'envoyer au MES qui va dispatcher des ordres de production aux différents systèmes. Donc finalement, mettre une diode unidirectionnelle quand à côté, on a une autre liaison qui ne l'est pas, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de justifier l'investissement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne le voit pas trop, mais... Je pense qu'il y a un manque d'offres sur des choses abordables financièrement qui permettraient de démocratiser un peu si on voulait.
Oui, d'autant plus que cette idée de dire qu'on est capable d'opérer l'usine sans la connecter au monde extérieur, en fait, aujourd'hui, c'est complètement faux. C'est extrêmement rare. C'est des cas j'essaie de réfléchir, mais je pense que je dois les compter sur les doigts d'une main, les cas où j'ai vraiment une capacité à avoir un système industriel qui est complètement déconnecté du reste. Même quand on passe en mode island, qui est en mode dégradé, isolé, du reste du monde pour l'usine en cas de compromission du monde extérieur, et bon, pour mettre l'usine en sécurité, donc la replier sur elle-même, on n'est pas capable aujourd'hui de tenir en mode island pendant une durée qui est très longue. C'est très très rare d'avoir un industriel qui est capable de tenir un mode island, entre guillemets, sur toute la durée de vie de l'usine. Même s'il le faisait pour des raisons de sûreté, probablement qu'il y perdrait énormément en termes de rentabilité et de performance de son usine. Aujourd'hui, une usine, elle a besoin d'être connectée au monde extérieur, elle a besoin de son ERP, elle a besoin de son carnet de commandes, elle a besoin d'avoir la capacité d'acheter des stocks de manière quasiment automatique pour les pièces qui sont nécessaires, d'aller chercher les recettes, et ça, ça ne se fait qu'avec de la communication bidirectionnelle. Et donc, en fait, cette idée de dire, je mets une diode, très bien, mais du coup, derrière, si je dois rapatrier de la donnée dans l'autre sens, les gens font quoi? Soit ils vous mettent un pareil firewall stateful, auquel cas, autant pas mettre de diode pour commencer, soit ils vous mettent une autre diode tête bêche, et auquel cas, c'est pas hyper joli comme modèle de sécurité à la fin. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment un besoin, de la même manière qu'on a formalisé la passerelle multiniveau sur la confidentialité, d'avoir quelque part décrit les fonctions de sécurité qu'on voulait quand on descend de la donnée dans le système industriel et quand on la sort. De sorte aussi avoir une capacité à dire, en fait, je veux telle fonction de sécurité quand je sors et je veux telle fonction de sécurité quand je rentre. Parce que c'est pas les mêmes, puisque d'un côté, on va protéger en intégrité lorsqu'on va envoyer de la donnée vers l'intérieur de l'usine, on veut être sûr qu'en fait, cette donnée, elle ne peut pas apporter atteinte à l'intégrité de l'usine. Et donc, en fait, pour faire ça, c'est très très compliqué. C'est nouveau, disons. C'est pas quelque chose qu'on voit couramment, notamment le fait de s'intéresser à la qualité de la donnée. Et ensuite, quand je viens sortir la donnée, là on veut protéger en confidentialité, et comme en fait la protection en confidentialité d'une usine, aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on considère très hautement, en tout cas c'est pas quelque chose qui nous intéresse fortement dans la sécurité des sysindus, on va accepter de mettre moins de fonctions de sécurité pour exporter de la donnée plus simplement. Se posera quand même la question plus tard, une fois qu'on aura concentré toute cette donnée dans une base de données, dans un cloud, ailleurs, de la valeur que toute cette donnée peut avoir une fois qu'elle est sur un même système, et de ce qu'on peut en faire, mais unitairement la donnée quand on la sort, d'un système industriel, a priori, le niveau de confidentialité il est très faible. Donc finalement, on veut juste faire une vérification que ça se passe bien et envoyer la donnée derrière, dehors.
Et alors, est-ce que vous faites des recommandations dans ce document, et si oui, quelles sont-elles ?
Dans les formats courants que vous avez dans les mains de l'agence, qui en général reposent sur le format guide, vous avez effectivement des recommandations et c'est bien délimité. Vous avez des petites R avec des petits encadrements qui sont faits pour ça. Ici, l'idée, c'était beaucoup plus de venir sensibiliser au modèle et de venir proposer une solution. Donc, on pourrait se dire qu'il y a la recommandation de mettre en place les passerelles telles que décrites au mieux. Dans la pratique, c'est pas une recommandation parce qu'aujourd'hui, si jamais vous regardez, dans les passerelles, notamment dans la passerelle rentrante, on a une fonction de vérification d'intégrité OT, et aujourd'hui, cette fonction d'intégrité OT, elle ne se trouve pas sur le marché. Donc il y a eu un appel à projet côté BTI France il y a plus d'un an maintenant, et on a eu déjà des entreprises qui ont pu récupérer les fonds pour avancer le développement, mais on n'a pas de produits sur le marché qui permettent de le faire. Et donc, en soi, c'est très dur de venir recommander quelque chose, alors que on sait que c'est complètement exploratoire et que la qualité des produits à mettre en œuvre, elle est pas forcément encore satisfaisante. Le but du papier, c'est bien plus de sensibiliser les gens aux risques et de leur pointer les risques, de sorte à ce que s'ils souhaitent aller sur ce chemin-là, ils soient en maîtrise du risque et donc qu'ils soient capables de faire des choix éclairés dans la manière dont ils le mettront en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que je vais pas faire redescendre n'importe quel type de données ou n'importe quel type de consignes dans l'usine. Peut-être que je vais en choisir certaines qui sont moins critiques ou certaines que je vais pouvoir débrayer. Donc c'est plutôt dans cette idée-là que le papier est écrit que dans l'idée de mettre des recommandations. C'est presque un billet d'humeur, en fait.
Très bien. Est-ce que tu voudrais évoquer un point dont on n'a pas parlé ?
Je pense que de manière générale, le papier, c'était une manière pour nous de rentrer et de commencer à parler de l'industrie 4.0. On a pris l'exemple de l'IoT parce que ça s'y prêtait bien pour la conférence à laquelle on a été invité, qui était les Césars, qui parlaient de l'IoT cette année-là. Mais en fait, les constats et le raisonnement et l'approche peut être passé à peu près à n'importe quel cas où j'introduis une technologie un peu alien à l'intérieur de mon usine. Et je pense que pour un lecteur un peu averti, il y a une vraie possibilité de lire ce papier avec ce prisme et de se dire « Ok, bah, je vais introduire une nouvelle tech dans mon usine, par exemple le cloud. Je sais pas, je veux faire des automates dans le cloud, imaginons, ou virtualisés. Ça va venir apporter des risques. Est-ce que je peux pas réappliquer le même raisonnement que ce qui a été appliqué là? Est-ce que je peux pas en tirer des risques? Et est-ce que je peux pas regarder au-delà du modèle historique pour me poser la question des nouveaux risques de ces nouvelles technologies dans mon usine? Et moi, j'aimerais bien que le papier soit lu un peu comme ça, parce qu'il a aussi été écrit un peu comme ça, avec le cas d'application facile, entre guillemets, à représenter, qui est aujourd'hui l'IoT en milieu industriel.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre du document que vous avez publié, un projet CECI pour l'Internet des objets industriels, donc à retrouver sur le site de l'ANSSI, et bien sûr, nous rajouterons un lien dans la publication. Merci encore Laetitia, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.